Bonsoir à tous, voici le magazine des déchaînés du football en direct, comme chaque lundi soir, entre 19h et 20h30, on parle foot sur les ondes de Radio Bonheur, on parle foot avec monsieur Gaëtan Pinel qui est avec nous en studio ce soir. Bonsoir Gaëtan.
Bonsoir Dominique, bonsoir à tous.
Également avec nous ce soir pour le magazine des déchaînés du football, évidemment, Pierre-Henri Dufay. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Dominique, bonsoir Gaëtan, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous.
Alors ce soir, Jackie n'est pas avec nous.
Ah non, Jackie est resté à Brest.
Jackie Le Gall, qui a commenté pour la première fois avec vous, Gaëtan, hier soir.
Oui.
Un match de Brest. À noter que, donc, dorénavant, cette saison, tous les matchs à domicile de Brest seront suivis aussi, donc, par Jackie Le Gall, une célébrité.
Hein, avec ses anecdotes folles. Je vous ai écouté un peu hier, j'ai appris mille et une choses sur le stade brestois.
C'est ah oui, il a des anecdotes vraiment à revendre, Jackie. Ça fait, il nous expliquait d'ailleurs,
un puits de science sur Brest. Hein.
Oui, ouais, c'est ça. Ça fait 44 ans qu'il est autour du club, hein, en tant que journaliste ou autre rôle d'ailleurs qu'il a pu avoir. Et évidemment, bah, forcément, en 44 années, il en a connu des joueurs, des entraîneurs et de quoi nourrir quelques bons carnets d'anecdotes.
Alors ce week-end, on a presque eu la passe de 3. Il manquait plus qu'une victoire de Brest. On y a cru.
Un quart d'heure près, c'était bon.
Ouais, on y a cru à la victoire de Brest. Bon, pour les autres clubs, ça s'est très bien passé. Surtout pour Lorient, c'était quand même assez inattendu face à Lille. Pour Guingamp, c'était aussi une bonne surprise parce que c'était à l'extérieur face à un quart d'heure de la Ligue 2. C'était un super résultat. Et puis, on a cru à la victoire de Brest, mais voilà, pénalty à un quart d'heure de la fin. Ouais. Les Brestois s'en mordent un peu les doigts parce qu'ils auraient dû gagner ce match. On va d'ailleurs commencer par parler de la Ligue 1.
Exactement.
Et du Stade Brestois 29, Gaëtan.
Oui, les Brestois qui ont donc été accrochés hier par Angers, qui n'ont toujours pas gagné dans cette saison. 3 matchs nuls, 2 défaites. Alors ce match-là était quand même meilleur par rapport à celui de Strasbourg juste avant la trêve internationale. Il avait laissé un petit peu les Brestois et les supporters sur un goût amer. Là, c'était un peu mieux quand même. Malheureusement, pas de victoire au bout. On écoute ce qu'il s'est passé, c'était hier après-midi sur Radio Bonheur.
Match nul, hein, on le rappelle, entre Brest et Angers hier après-midi, un but partout.
Attention, ce centre de et Bernardoni qui détourne le premier poteau. Et ça a même... Non, c'est le poteau qui a touché le poteau. Et l'accélération encore des Brestois avec ce délice de passe de Del Castillo pour Odora. À l'entrée de la surface, la frappe de Laurent. Oh, la parade de Bernardoni et Cardona qui peut reprendre le ballon dans un second temps. Pour retrouver Franck Odora côté droit, il y a Romain Fèvre qui accompagne à ses côtés. Voilà qui est trouvé. Fèvre dans la surface qui élimine un, deux joueurs qui retrouvent Odora. Franck Odora de l'extérieur. De l'extérieur du pied droit et Paul Bernardoni qui détourne ce ballon. Bouffal là encore, est-ce qu'il va pouvoir centrer? Il tente d'éliminer Duverne, voilà qui est fait. À l'entrée de la surface de réparation, le centre, c'est renvoyé in extremis par Ronel, Pierre Gabriel, très chaud d'alerte. Puissance, attention à la contre-attaque avec Cho qui va frapper. Et heureusement, l'intervention, me semble-t-il, de Marco Bizot.
Non, il ne touche pas. Hein.
Ouais, il ne touche même pas, c'était vraiment limite. Il y a eu un rebond. Ouais. Del Castillo qui tente un dribble et pénalty.
Et là, c'est pénalty.
Pénalty. Il y a faute, il laisse la jambe traîner à Enzo et Boss. Romain Fèvre à l'heure du rachat face à Bernard. Oui, à l'ouverture du score de Romain Fèvre, un but à 0. Il va célébrer ce but devant le COP, son COP, parce qu'il est resté au Stade Brestois cet été, Romain Fèvre, après son vrai faux départ. C'est lui qui délivre le Stade Francis Leblé, 1-0. Avec ce but, et voici la première prise de balle de Badji pour retrouver Fèvre avec Del Castillo, pourquoi pas à gauche avec Honora. Del Castillo, il l'a vu, Franck Honora dans la surface de réparation, la frappe, elle est trop écrasée, il est sur son mauvais pied là, Franck Honora.
Ça c'est moins bon pour Brest, mais bon,
si on... Oh, la perte de balle, le pénalty pour Angers. Pénalty pour Angers, la perte de balle des Brestois. Il y a eu un centre de Tcho venu de la droite. Un ballon mal renvoyé par la défense.
Et une faute
dans le dos de Sofiane Boufal. Pénalty logiquement sifflé suite à cette faute de Yang Gambok. Brest a ouvert le score sur pénalty. Mangani va égaliser pour le SCO d'Angers sur pénalty. Un partout à la 78e minute de jeu ici au stade Francis Leblay. Tout est à refaire dans ce match désormais. Et avec un Michel Dazakarian en tribune pour ce dernier quart d'heure. Ballon en retrait pour Azedine Ounahi, ils vont temporiser là les Angevins. Baoken à 20 mètres pour tenter sa chance. Et Marco Bizet qui détourne ce ballon, qui préserve sans doute un petit point très précieux pour le Stade Brestois. Ça s'arrête là, match nul à Francis Leblay entre Brest et Angers, un but partout.
Et ça en restera là, un but partout. Et c'est un match quand même marqué par l'arbitrage et par évidemment les pénaltys, puisque tous les buts ont été marqués sur pénalty dans cette rencontre. Il y a eu deux pénaltys, mais il aurait dû en avoir trois, Gaëtan.
Oui, parce que juste avant la mi-temps, Romain Fèvre a été victime d'une faute de Romain Thomas, le défenseur angevin. Il y avait un bon coup à jouer dans la surface. Alors, il perd un petit peu ses appuis, sans doute, Romain Fèvre, au départ, sauf qu'il est complètement bousculé délibérément par le défenseur d'Angers et qu'il l'empêche complètement de poursuivre son action. Donc, il y aurait dû avoir pénalty à ce moment-là. Ce qui est étonnant, que l'arbitre siffle ou non. Bon, ça c'est à la rigueur son choix, mais la vidéo n'a même pas été consultée pour cela. C'est
et
ça
sur la vi- et sur la vidéo, c'était flagrant.
C'était flagrant, oui. Ouais. On a revu les images 10 secondes plus tard et voilà, il n'y avait plus aucun doute. Bon, ça n'a pas été consulté, on n'a pas vu mettre la main à l'oreillette, on n'a pas vu du tout aller voir non plus le.
Il y aurait pu avoir un carton rouge aussi en première période.
Et oui, sur la faute de Souleymane Doumbia, on était vraiment
Brest
pas loin.
Brest aurait pu jouer à 11 contre 10. Ouais. Donc c'est Brest n'a pas été gâté par l'arbitrage. Pour ce pénalty et pour ce carton rouge mérité là encore par cette équipe qu'on aurait bien aimé battre les Angevins hier soir. Mais bon,
d'autant qu'au niveau de l'arbitrage aussi, Michel Dazakarian, l'entraîneur
a été
expulsé. Ouais. Alors il l'a expliqué en conférence de presse pourquoi. Bah, d'ailleurs, on va tout de suite passer Dominique au son numéro 3. On reviendra dans l'ordre après avec cette expulsion de Michel Dazakarian qui en explique les raisons.
Non, on n'est pas naïf. C'est vrai qu'on est. Je pense qu'on est un peu immature. Maintenant, c'est des points sur lesquels, des axes sur lesquels on doit travailler. Mais comme j'ai dit, je pense pas que ça soit défensivement le problème aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas su tuer le match dès le début. Voilà. Parce que on a vu qu'on a mis Angers en difficulté, on a mis de l'intensité au début et voilà. Je pense que c'est ça. Ça a été ça le défaut aujourd'hui.
C'est pas le bon son.
Non, c'était le suivant.
Il y a une petite erreur.
C'était
dans le
suivant. On va vous passer le bon cette fois, le numéro 4. Donc cette fois.
Derzak expulsé.
Non, je veux pas parler d'arbitre. Je pense que le deuxième jaune qui me met, il est sévère. Il y a une bouteille devant moi, je tape dessus et elle passe à côté du banc. Enfin, voilà, c'est comme ça. C'est sa décision à lui, c'est la décision du quatrième arbitre. Parce que c'est le quatrième arbitre qui l'appelle. C'est comme ça. Je ne serais pas dû taper dans la bouteille.
Ah ouais, mais c'est sévère quand même. Hein.
C'est sévère.
Bon, il a le droit d'avoir des émotions aussi, Michel Dazakarian. Ouais. Bon, il a tapé dans une bouteille, il a agressé personne hein, avec ça. Surtout que c'était devant le banc de touche. Bon, en tout cas, il a été expulsé et il a terminé le dernier quart d'heure en tribune. Mais au-delà de ça, c'est effectivement cette égalisation angevine qui laisse des regrets parce que Brest a livré une vraie belle partie hier avec trois occasions nettes dans les 8 premières minutes. Brest aurait dû mener plus rapidement.
Dès le début du match.
Ouais. Parce qu'au bout d'une minute 30, je crois, il y a le poteau de Cardona qu'on entendait dans le résumé. Il y a eu aussi deux très grosses occasions pour Franco Nora. Malheureusement, c'est pas passé. C'est pas passé pour les Brestois à ce moment-là. Ils ont marqué plus tard. Mais comme l'explique Romain Fèvre, on va l'écouter cette fois, ils n'ont pas été assez tueurs, les Brestois, pour faire le break face à Angers.
C'est de la frustration à la fin du match parce que tout le monde est déçu. Je pense qu'on méritait un peu plus aujourd'hui. On doit être plus tueurs. C'est le mot qui doit revenir dans la tête de tout le monde. On doit faire la différence dès le premier quart d'heure. Pour moi, je pense par 2-0. Ça nous aurait bien lancé dans le match. On laisse l'adversaire en vie et c'est frustrant. On va devoir travailler l'entraînement sur ce point-là. Le but a été important. Je pense qu'il nous a mis réellement dans le match. Maintenant, voilà, on prend, comme d'habitude, on fait une erreur bête alors qu'on propose de belles choses. Et au final, comme j'ai dit, on ne tue pas le match, on laisse l'adversaire en vie et au final, on prend un but et l'adversaire revient et c'est toujours frustrant.
Ouais, parce qu'en plus, c'est Brest qui donne le but hein,
oui.
aux Angevins.
Oui, oui, vous l'avez vu aussi, Pierre, je crois, à la faute de Young Mbok sur Sofiane Boufal.
Bah, il est derrière la perte de balle avant.
Ouais, la perte de balle avant, le dégagement raté en fait de ouais. Ronald Pierre-Gabriel. C'est un enchaînement de deux erreurs individuelles qui amènent à ce pénalty.
Ce qui est terrible, c'est que c'est peut-être le match où Brest a été le plus solide défensivement, oui. Peut-être le match le plus consistant. Et même là, il y a cette étourderie, c'est ce fait contraire qui ne récompense pas les Brestois, parce que on l'a vu dès l'entame avec ce flot d'occasions dès le début que Brest était venu vraiment avec l'envie de gagner ce match. Enfin, c'est une équipe qui fait un très bon début de saison, qui a une armada offensive très forte, souvenons-nous. Oui. Elle a passé 3 buts à Lyon il n'y a pas si longtemps que cela. Elle a gagné 2-0 aussi contre Rennes à domicile avec les Cho, Fulgini, etc. Donc c'était un vrai test pour Brest, ils l'ont presque réussi, mais il manque l'essentiel. Je pense qu'ils auraient été bien plus heureux aujourd'hui de faire un mauvais match, mais d'avoir gagné 1-0.
Oui, c'est vrai.
Et malheureusement, c'est pas le cas, parce qu'il y a toujours ces toutes petites erreurs qu'il va falloir corriger, parce qu'il ne faut plus prendre trop de retard. Ça commence à partir un peu en haut. Heureusement, il y a des gros qui sont un peu à la rue dans ce début de saison. On pense à Saint-Etienne, Bordeaux, etc. Mais attention, attention, parce qu'il y a des équipes du niveau de Brest, Angers, Clermont, qui ont pris des points. Troyes a gagné son premier match aussi. Voilà, faut pas que ça parte un peu trop loin dans ce mois de septembre que l'on disait capital aussi la semaine dernière.
Oui, c'est ça, et notamment ce match contre Angers. Et ce qui est un peu dommage aussi sur cette rencontre, c'est que Brest avait 7 fois les cartes en main, autant contre Strasbourg, Paris, Rennes. Brest était mené à chaque fois, pas contre Lyon la première journée, mais cette fois-là contre Angers, ils avaient les cartes en main, ils n'étaient pas inquiétés du tout, ou quasiment pas, et il a fallu cette étourderie, comme vous le disiez, Pierre, pour venir casser ce bel après-midi des Brestois de Romain Fèvre. Romain Fèvre, justement, qui revient sur l'immaturité dont a fait preuve son équipe, parce que dans sa situation au classement et avec ce début de saison, avec en plus ce scénario de match, Brest aurait dû peut-être pas se serrer les coudes, mais en tout cas faire preuve d'une intelligence autre pour garder ce petit but d'avance. Écoutons-le.
Non, on n'est pas naïf. C'est vrai qu'on est, je pense qu'on est un peu immature. Maintenant, c'est des points sur lesquels des axes sur lesquels on doit travailler. Mais comme j'ai dit, je pense pas que ça soit défensivement le problème aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas su tuer le match dès le début. Voilà. Parce que on a vu qu'on a mis en jeu en difficulté, on a mis de l'intensité au début, et voilà, je pense que ça a été ça le défaut aujourd'hui.
Il souligne un point important, là, Romain Fèvre. Il dit que finalement, le problème n'a peut-être pas été défensif, mais c'est peut-être plus de la part des attaquants de ne pas avoir su faire le break plus tôt, qui a mis Brest dans le mauvais
les
chemin.
Deux. Les deux. Hein.
Les deux. Mais ouais. C'est vrai que si les attaquants avaient marqué rapidement, comme ils auraient dû le faire sans doute, bon, il n'y aurait pas eu cette fin de match décevante avec ce un but partout, le but d'un ancien Brestois d'ailleurs, un Thomas Mangani, passé par le club en 2006-2007 en Ligue 2 à l'époque. Il y a beaucoup d'ailleurs d'anciens Brestois dans cette équipe: Romain Thomas Mangani, Ismaël Traoré, Baticle, et l'entraîneur Gérald Baticle, qui avait eu aussi les commandes de l'équipe en 2008-2009.
Est-ce que c'était lui sur le... C'était le 16e de finale?
Oui,
Guingamp-Brest.
Guingamp-Brest en Coupe de France, c'était lui.
Ah,
c'était lui. Ouais, ouais. Il avait fait 25 matchs entre Ligue 2 et Coupe. Et ce match de Coupe de France, Guingamp-Brest, c'était Gérald Baticle, l'entraîneur à l'époque. Ça a bougé depuis. Michel Darzacarian est arrivé. D'autres joueurs sont aussi arrivés. Et d'ailleurs, il y en a 3 qui ont joué hier. 2 étaient titulaires. Lucien Agoumé, prêté par l'Inter Milan. Romain Del Castillo, arrivé du Stade Rennais. Et puis, Youssouf Badji est entré en jeu devant l'attaquant prêté par le FC Bruges. Il faut dire aussi qu'il manquait hier Steve Mounier, hein, qui s'est blessé à l'entraînement. Et qu'est-ce qu'il a pensé des premiers pas de ses recrues, Michel Darzacarian? Écoutons l'entraîneur du Stade Brestois.
C'est des garçons qui n'ont pas beaucoup joué, qui manquent de temps de jeu. C'est pour ça qu'ils ont fléchi en deuxième mi-temps. Mais c'est normal. C'est normal qu'il y avait de l'intensité dans notre jeu, il y avait de la vitesse, et au bout d'un moment, il y a de la fatigue. Mais c'est des bons joueurs. Ouais, techniquement, Lucien nous amène un peu plus de justesse au milieu, à la sortie du ballon. Et les deux Romains, ils ont la faculté de bien combiner ensemble. Voilà, avec Franck Honora, qui a de la vitesse, qui est capable d'être beaucoup très percutant, mettre des bons centres. À nous de continuer à travailler, de récupérer les blessés pour être encore plus performants. Hein.
Oui, il va falloir que tout ça se mette en route petit à petit.
Ouais, parce que Brest n'a toujours pas gagné, hein, vous le disiez en début d'émission. C'est inquiétant de patiner, de prendre seulement 3 points après donc 5 rencontres. Ouais. On est largement en dessous du niveau minimum là, pour se maintenir. Il faut vite une victoire maintenant pour Brest.
Ça fait 3 points sur 15 possibles. Hein. C'est un peu le calcul qui fait mal, mais il est là actuellement et les Brestois n'avancent pas assez. Alors, on a quand même, Pierre, le sentiment que les recrues qui sont arrivées, Romain Del Castillo qu'on connaît bien maintenant en Ligue 1, l'ancien Rennais, et même Lucien Goumet, hein, un tout jeune joueur très prometteur. Badji, on le connaît un petit peu moins, mais ça semble quand même être de bonnes pioches.
Bah, c'est des profils qui doivent amener quelque chose. C'est vrai que c'est toujours délicat de devoir bâtir son équipe un peu à la dernière minute. C'est ce que Brest a fait avec ses trois arrivées dans le dernier jour du mercato. Mais alors, autant à Goumet, c'était attendu, mais Del Castillo, c'était une réelle surprise. Oui. D'autant plus que la nouvelle est tombée très tard, même après minuit. Je me souviens, on devait faire la rubrique, crois, Gaëtan, et on a appris à minuit 18 que Del Castillo signait, et surtout un transfert sec. Donc ça, c'est pas un prêt, donc c'est un joueur qui appartient au Stade Brestois, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, un profil technique, un de plus, hein, dans cette attaque où il y a quand même pas mal de beau monde. Donc c'est vrai que c'est intéressant.
C'est d'ailleurs lui qui obtient le pénalty hier contre Angers.
En plus, début réussi. Agoumé aussi, c'est un profil très prometteur. Je suis vraiment curieux de voir Agoumé parce que c'est un joueur qui avait fait une belle saison en Ligue 2 avec Sochaux. C'était un gros prospect, comme on dit, qui a été acheté très jeune par l'Inter. Il n'a pas beaucoup joué à l'Inter Milan. Donc, ça va être une découverte aussi pour nous.
Il avait été prêté à la Spezia l'année dernière.
La Spezia, en Italie, effectivement.
Prêté à Brest maintenant.
Ouais, là je vois la note de notre ami Franck Ledors dans l'équipe, 6 sur 10, donc c'est un début plutôt correct.
Oui.
À confirmer, avec évidemment, comme le disait Derzakarian, avec un peu plus de coffre physique, espérons-le, parce qu'effectivement c'est toujours délicat quand vous arrivez dans un club que vous n'avez pas beaucoup joué la saison d'avant, que vous n'avez pas joué du tout depuis le début de la saison, vous n'allez pas pouvoir donner 100% sur le premier match, mais c'est une belle curiosité en tout cas à Goumet. Et ouais. Badji, alors là, autant vous dire que je ne le connais pas du tout. Donc,
non plus, on l'a vu du coup hier sur la fin de match.
C'est bien par contre d'avoir un profil de doublure à Steve Mounier qui n'était pas là hier, parce qu'il y a plusieurs profils, on parlait de ces Honora, Fèvre, Del Castillo, Cardona. Bon, c'est pas des profils très très différents non plus. Là par contre, Badji, c'est vraiment une autre solution qui appartient au profil de Steve Mounier. Donc ça peut être intéressant aussi sur des rotations.
Un atout de profondeur supplémentaire sur les premiers pas qu'on a pu voir en tout cas hier. Ce sera évidemment à confirmer pour Youssouf Badji, le nouveau numéro 29 du Stade Brestois 29. Une petite page de pub et puis on revient, on terminera ce chapitre sur le Stade Brestois. Tout de suite.
Votre BMW, êtes-vous prêt à la laisser entre n'importe quelles mains ? Chez BMW Service, nos techniciens ont en moyenne 10 ans d'expérience dans la marque, n'interviennent que sur des BMW et ont suivi plus de 240 heures de formation spécifique. C'est dire s'ils maîtrisent la technologie de votre véhicule. Votre BMW a plus de 6 ans ? Avec l'offre Avantage 6+, bénéficiez toute l'année de tarifs préférentiels sur les principales opérations d'entretien. Et jusqu'au 15 octobre, profitez de 50 euros de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. Voir conditions et réseaux participants sur bmw.fr.
Si tu étais une qualité,
le caractère,
une allure,
l'élégance,
une attitude,
la sensualité.
Si tu étais ma prochaine voiture,
la Swift, la Suzuki Swift Hybrid.
Suzuki Swift Hybrid, marquez votre différence à partir de 119 euros par mois, entretien inclus. À découvrir ce week-end chez votre concessionnaire Suzuki.
Swift Hybrid Avantage, location longue durée 37 mois, 30 000 km à partir de 119 euros par mois après premier loyer de 2000 euros. Prime à la conversion de 1500 euros déduite. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 septembre 2021 si accord Arval Service Lease. Détails sur suzuki.fr.
Sur Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. Dans un bus.
C'est un super prix.
En prenant le train.
Oh, c'est un super prix.
Ou même dans les montagnes russes.
C'est un super prix.
Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez.
BMW. Quand vous découvrirez qu'en ce moment, la BMW Série 1 édition M-Design est à partir de 295 euros par mois, avec sa caméra de recul, son GPS grand écran et sa connectivité pour smartphone, vous réaliserez que la seule chose qui lui manque, c'est vous. Pendant les journées portes ouvertes, rendez-vous chez votre concessionnaire ou sur bmw.fr.
Exemple pour une BMW 1/16i édition M-Design avec majoration du premier loyer de 2600 euros. Offre LLD 36 mois 30 000 km, réservée aux particuliers et valable jusqu'au 30 septembre. Si accord par BMW Finance. Détails sur bmw.fr.
La première fois que je t'ai vu, ça a été comme une évidence pour moi. Ton rire, ton regard, t'avais tout pour me faire craquer.
Et du coup, après ce premier tête-à-tête vidéo, on s'est tout de suite donné rendez-vous dans un café.
Et c'est seulement en arrivant qu'on a raccroché.
Et si on se découvrait en vidéo avant de se rencontrer en vrai ? Télécharger Mythique et rencontrer des célibataires prêts à s'engager.
Mythique.
On n'a plus personne de dispo à la prog.
Pour son studio de jeux vidéo, Sébastien a besoin d'un nouveau programmeur. Sinon, ça risque d'être game over. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement le bon profil.
J'ai besoin d'Indeed.
Avec la fonction évaluation sur Indeed, vous pouvez choisir l'un des 20 tests de compétences pour vous aider à évaluer des candidats. Il est trié selon les compétences que vous recherchez. Rendez-vous sur indeed.com/offre et profitez de 100€ offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition.
Si je te dis porte blindée et réseau de serrurier agréé, tu me réponds ?
Point fort fiché, bien sûr.
Eh bien, du 7 au 25 septembre, Point fort fiché reprend ton ancienne porte d'appartement ou de maison jusqu'à 700€.
Voir conditions en magasin et sur fiché-pointfort.com.
Point fort fiché, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Pour mes prochaines vacances, j'ai prévu de me balader à Agrabah. Je vais découvrir la planète Tatooine
et naviguer jusqu'à l'île de la Muerta. Tout ça à Disneyland Paris.
Réservez dès maintenant vos prochaines vacances à Disneyland Paris avec nos séjours à petit prix pour les familles. Des mesures sanitaires renforcées sont mises en place. Détails et conditions sur disneylandparis.com.
Aujourd'hui, 90% des victimes de bombardements sont des civils. Arrêtons de jouer avec leur vie. Pour soutenir le combat de Handicap International et faire stopper l'usage d'armes explosives en zone peuplée, rejoignez les Pyramides Solidaires le 25 septembre partout en France.
Incroyable! Poignes fête toute l'année ses 50 ans. Et moi, j'adore les anniversaires et surtout les cadeaux. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Alors en ce moment, il y a une voiture à gagner et 50 trottinettes électriques. À votre place, je ne les laisserai pas filer. Alors pas de stress, il y a Poignes.
Valable jusqu'au 25 septembre. Détails sur points.fr.
Allez, retour du magazine des déchaînés du football. Il est 19h25. On parle encore pendant quelques instants du Stade Brestois, oui. 29, qui a fait match nul contre Angers ce week-end, un but partout.
Avec un but de Romain Fèvre sur pénalty à la 62e. Romain Fèvre qui a failli partir, hein, on le rappelle, dans les dernières heures du Mercato, qui finalement n'est pas parti au Milan AC, mais bien resté au Stade Brestois. Il y avait eu l'imbroglio, la petite brouille qu'il avait vu ne pas rejoindre ses coéquipiers pour le déplacement à Strasbourg juste avant la trêve internationale. Et il y a eu réconciliation hier avec le public, avec le club d'une manière générale. Romain Fèvre qui a livré un bon match et qui s'est réconcilié avec tout le monde. Écoutons-le.
Honnêtement, je m'attendais à recevoir quelques sifflets. Maintenant, je sais que le public du Stade Brestois, c'est un bon public, voilà, qui sait pousser les joueurs. Et je pense que la réaction elle a été bonne des deux côtés. Et je suis très content aujourd'hui. Je suis content qu'il m'ait encouragé. On a mis les choses au clair avec tout le monde, avec les supporters à la fin du match. Et voilà, c'est reparti sur de bonnes bases.
Il était capital, hein, ce pénalty quand même. Alors, même si... Je pense que la brouille n'aurait pas duré, mais c'est vrai que ça accélère les choses de le voir marquer en plus de ce côté-là pour aller vers les supporters derrière.
Dans la masse de supporters, hein. Le fêter ce but. Et après le match, il est allé aussi les voir à nouveau. Ils ont discuté. D'ailleurs, on y reviendra dans la rubrique Brest demain sur Radio Bonheur. On reviendra sur le cas Romain Fèvre, justement, qui explique maintenant que tout s'est apaisé. On ne vous dévoile pas tout, bien sûr, mais voilà, il a vraiment remis les choses en place avec tout le monde au sein du club, avec les supporters notamment. Et c'est vrai que c'était obligatoire pour le Stade Brestois parce que c'est l'atout majeur quand même, hein, techniquement, ce Romain Fèvre, le meneur de jeu du SB 29. Ouais.
Il me semblait, alors je ne sais plus si c'était lors de l'émission à ce moment-là ou lors de l'une de nos innombrables conversations téléphoniques ou réelles, mon cher Gaëtan, mais il me semble qu'on s'était dit que ça n'allait pas durer. Il fallait juste une réunion, remettre les points sur les i, que lui s'excuse, parce que ça a quand même, on ne le connaît pas personnellement, mais ça a quand même l'air d'être un bon garçon.
Oui, ça a l'air.
Voilà, ça ne pouvait pas durer, ça n'allait pas durer. Le temps allait faire son affaire, ça a duré 15 jours, ça ne s'est pas fait, tant pis pour lui, ça se représentera parce qu'il a trop de talent et il va le confirmer à Brest, il va aider Brest. Et on en reparlera peut-être cet hiver ou plus certainement cet été. Mais voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu cette image forte de lui qui marque. Et en plus de ce côté-là, qu'il aille voir les supporters, c'est, voilà, l'épisode est définitivement clos, je pense, depuis hier.
Et puis il a livré un très bon match en plus d'une manière générale. Pas suffisant toutefois donc pour que les Brestois s'imposent. Brest qui compte 3 points actuellement et qui reste en 18e position. On reviendra bien sûr sur le classement d'une manière générale.
Prochain match hein, des Brestois.
Ce sera dimanche prochain à Clermont. Il y aura deux déplacements de suite à Clermont et à Nantes chez deux anciens clubs de Michel Darzacarian d'ailleurs. L'ancien, le coach brestois.
Il va être en tribune, c'est dommage.
Ouais, il va être en tribune. Voilà, ce sera un petit goût amer sans doute pour ces déplacements-là, mais en tout cas, au-delà de tout ça, il faudra gagner cette fois pour le Stade Brestois au moins de ces deux matchs-là, parce que sinon, ça va commencer vraiment à devenir très compliqué.
Ouais, il faudra prendre au moins une fois 3 points là dans les deux prochains déplacements des Brestois. Il est presque 19h30, on passe à l'autre rencontre de Ligue 1, commentée également par vous. Hein. Ce week-end sur les ondes de Radio Bonheur, Gaëtan, le match de Lorient.
Je ne fais rien, je la retrouve samedi, la Ligue 2, à Niort.
Avec Guingamp.
Mais oui, on était avec de la Ligue 1 donc ce week-end, vendredi soir à Lorient, au stade du Moustoir. Les Merlus qui ont battu le champion de France en titre, qui n'est pas en forme, c'est vrai, hein, le LOSC de Jossa
Gourvennec. Quand même.
Mais quand même, une victoire, 2-1. On écoute ce qu'il s'est passé, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ce Lorient-Lille. C'était vendredi soir sur Radio Bonheur. Récupération avec Lemoine et pourquoi pas une première accélération de Terem Moffi sur le côté gauche, le centre immédiat vers l'orienté, la tête, elle est captée par Ivo Gerbic. Déjà une première occasion pour les Lorientais dans ce match avec ce joli mouvement. Attention, Moffi qui s'infiltre dans la surface, pas de faute, il va garder le ballon. Ballon à gauche vers l'orienté, frappe de l'orienté, but. Armand Lorienté ! Lorient qui pour l'instant fait déjà jongler le champion de France et ouvre le score. Après 7 minutes de jeu, le FCL ouvre la marque et ça fait 1-0 en faveur du Football Club de Lorient face à Lille, face au champion de France en titre. Le deuxième but cette saison de Lorienté. Lorient mène 1-0 face à Lille. Qui va tenter de repasser dans l'axe avec l'orienté, lui aussi encore trouvé dans l'intervalle. Mon conduit pour l'orienté encore. Oh, le face à face et Garbic qui détourne ce ballon. Lindo côté gauche qui va accélérer. Oh, attention, il s'est manqué Silva sur ce tacle là. Yilmaz qui va pouvoir centrer à son tour. Oh, pénalty cette fois. Ah ouais, pénalty pour Lille. La faute de Julien Laporte sur Burak Yilmaz. Ah là, c'est indiscutable. Sur ce coup-là, Yilmaz est parti pied droit. C'est dedans l'égalisation du LOSC ici en Moustoir. Un but partout à la 25e minute de jeu. Bon conduit et pour éliminer Benjamin André et décaler ensuite l'orienté sur le côté gauche. Elle est pourquoi pas apporter encore une frayeur dans la surface lilloise. Son deuxième poteau. Oh, la reprise de volée de Silva, le ballon détourné par Gerbic. Pour aller chercher Youssouf Yazici. Attention à l'entrée de la surface, il va frapper le Turc. Elle est contrée cette frappe et avec l'effet d'optique, on a bien cru que Nardi allait être battu, sauf que ce ballon finalement file très nettement à côté du cadre, mais c'est un corner. Dans cette fin de match, attention à ce corner, c'est repoussé par Nardi, dégagé en catastrophe ensuite par Igor Silva et il a fallu une intervention salvatrice là. Sur la frappe de Beauconduit, là aussi, à 30 mètres, Beauconduit qui prend ses aises, qui tente sa chance et qui pousse Ivo Gerbic à la parade. Ça revient sur Boigard à 25 mètres. Boigard, est-ce qu'il peut écarter? Oui, vers Vincent Le Goff. Un bon centre de Le Goff et deuxième but. Terem Moffi qui va offrir la victoire à Lorient, quasi à l'entame du temps additionnel. La liesse ici en Moustoir, parce que Lorient va confirmer son 100% de victoire à domicile cette saison grâce à Terem Moffi sur cette offrande de Vincent Le Goff. 2-1 pour le Football Club de Lorient face au champion de France.
Ouais, et c'est normal, c'est logique, on le disait depuis un moment, les Merlus devaient gagner ce match.
Ne jouera même pas cette touche. Lorient va s'imposer 2-1 face au champion de France en titre. Nouvel exploit du Football Club de Lorient après celui face à Monaco il y a quelques semaines lors du premier match à domicile.
Et deux matchs et deux victoires. Hein. Deux matchs et à domicile et deux victoires pour les Merlus. Ça, c'est un super début de saison pour le FCL. 8 points et 8e de la Liga.
Exactement. Deux victoires à domicile contre deux pointures, en plus Monaco et Lille. 8 points, c'est déjà le double de l'année dernière après 5 journées, puisque Lorient, l'année dernière, avait 4 points en 5 matchs. Là, ça fait 8. Alors, on va pas comparer à chaque fois sur l'année dernière parce que la phase aller avait été vraiment très compliquée. Mais il n'empêche que ce début est bien meilleur, évidemment, qu'il y a aussi un jeu qui est vraiment resté le même depuis la deuxième partie de saison dernière, qui a de plus en plus de certitudes, qui affiche une sérénité de plus en plus importante. Il y a eu très peu de départs aussi, alors celui de Johan Wissa, Gravillon et Chaloba qui étaient prêtés également, mais voilà, on a vu par exemple un Moritz Jens faire ses premiers pas, on y reviendra tout à l'heure, au sein de la défense, et puis on a vu cette attaque emmenée par Mofi et Lorienté nous régaler vendredi soir face au Merlu, face aux Lillois. Le début de saison des Merlus est donc bien meilleur que l'année dernière. Lorient est même pour l'instant dans ce top 10. Alors ça reste pour l'instant anecdotique, mais les points tournent, le compteur points tourne. Malgré tout, Christophe Pélissier ne veut pas s'enflammer et rester vigilant, rester prudent quant à la suite de la saison.
Ouais, il ne faut pas aller vite en besogne. Hein. Il n'y a que 5 matchs. On connaît nos qualités, on connaît nos forces. On doit rester dans cette dynamique pour être performant. Le jour où on sera un peu moins bien, ou qu'on va croire que c'est plus facile, on sera en danger, comme 10 ou 12 équipes qui début de saison, jouent le maintien. Il ne faut pas se faire, il ne faut pas non plus se voir plus beau que ce qu'on est. Par contre, ce que je suis sûr, c'est que lorsqu'on a fait des performances comme ce soir, dans la détermination, dans la qualité de jeu, on va embêter beaucoup d'équipes.
Ouais, et ils l'ont déjà fait hein, cette saison. Lille et Monaco donc sont tombés contre Lorient, et même à Lens, hein, ça avait été aussi un bon match à Saint-Etienne. Alors celui de Montpellier avait été raté et Christophe Pélissier l'avait reconnu sans problème. Il l'a encore dit d'ailleurs vendredi soir. Mais hormis cet accident, le reste pour l'instant ça se passe vraiment très bien pour les Merlus. Et Pierre, on a le sentiment que la deuxième partie de saison de l'année passée ne s'est jamais vraiment arrêtée. On est dans la continuité pleinement de ces derniers mois.
Oui, on pouvait craindre que le bel élan de la fin de saison soit stoppé par la fin de saison justement et que Lorient n'allait pas réussir à réenclencher la marche avant. Mais non, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire une équipe très souveraine à domicile. Je me demande même si Lorient n'est pas l'une des équipes qui a pris le plus de points à domicile en 2021.
Si, c'était le cas hein, sur la fin de saison dernière. Alors, je vais consacrer une rubrique d'ailleurs à cela mercredi, donc on va.
Ah bah je vais l'écouter.
On fera le compte justement. Mais oui, c'est une des équipes les plus performantes en 2021 à domicile.
Ouais, et ce qui est fou, c'est que peu importe l'équipe qui arrive, Saga, et surtout, c'est pas des victoires. Vous parliez d'exploits, Gaëtan. Alors bon, c'est un peu dans la liesse, mais je trouve pas que ce soit des exploits. C'est des matchs qu'ils vont chercher. Alors contre Lille, il y a eu plus d'occasions contre Monaco, parce que contre l'ASM, il y a eu 70% de possession. On avait l'impression que les joueurs d'un principauté pouvaient jouer 4 heures sans marquer, mais. Là, je trouve que c'est pas un exploit parce que on l'a senti venir ce deuxième but.
Oui, c'est vrai.
C'est quelque chose qu'ils ont construit. Lille a eu qu'une seule occasion dans les 20-25 dernières minutes, c'est le corner avec l'arrêt réflexe de Nardi. Mais sinon, on sentait avec les entrées de Boigard aussi et autres qu'il y a eu quelque chose qui a été apporté. Et ça a fini par payer. Donc c'est bien aussi d'arracher ces matchs-là. Et en plus maintenant, il y a le public pour profiter de ces matchs-là. Parce que l'année dernière, c'était vous le plus brillant en moustoir, Gaëtan, notamment contre PSG.
Braillait, hein.
Mais là, c'est dans la continuité. Et pourvu que ça dure vraiment. Maintenant, il faudra essayer aussi d'aller gratter un peu plus de points à l'extérieur.
Oui, parce que Lorient n'a plus gagné depuis près d'un an à l'extérieur. C'est vrai, le mot exploit, il venait surtout parce que c'est Monaco, le premier match, qui est une pointure. Lille, qui est le champion de France. Mais c'est vrai que vous avez raison, Pierre, dans le match, la meilleure équipe, ça a été Lorient, clairement. Et Lorient a mérité sa victoire contre le LOSC vendredi soir. Une victoire obtenue grâce à un but de Terem Mofi, grâce aussi à une passe décisive de l'attaquant nigérian, qui est de plus en plus complet au sein de cette équipe des Merlus, de plus en plus indispensable aussi. Il est d'ailleurs venu en conférence de presse après le match. On l'écoute. Attention, c'est en anglais. On vous traduit sa réaction juste après.
I just saw the space and I started running with the ball. And the more I ran with the ball, the more the space opened up. And I just there was a bit of luck in the goal because the defender tried to clear the ball and it came back to me and I passed to Amon.
Alors vous me dites si je me trompe, Pierre, hein, vous qui êtes meilleur en anglais que moi, plus brillant, mais il explique qu'en fait il a pris l'espace Armand Lorienté. Alors il élimine en plus trois défenseurs lillois hein, sur le coup, un quatrième même au bout, et puis que derrière il conserve le ballon, il arrive à se retourner, il attend qu'Armand Lorienté se présente et il le décale face aux défenseurs athlétiques hein, quand même de Lille, parce que c'est Botman et Font, les deux défenseurs centraux, et puis il y avait Reynildo je crois aussi dans le coup, le latéral gauche. Donc, voilà un peu comment il s'est emmené ce
il
ballon.
Il a dit mais... ça en 13 secondes.
Il a j'ai rajouté quelques petites choses.
Oui, je crois,
hein. Oui. C'est que vous êtes notre Nelson à nous. Non mais ouais, il a dit qu'il a eu un peu de chance. Oui. Je crois il a dit clear the ball, ça veut dire je crois que le défenseur lillois n'a pas réussi à la dégager et voilà, et ben il a réussi, mais c'est alors il est un peu irrégulier sur ce début de saison parce qu'il y a certains matchs où il est un peu passé à côté, me semble-t-il.
Oui.
Gaëtan, vous
oui, à Montpellier notamment, mais il était blessé au genou, enfin aussi. Il était touché au genou et il est bien revenu contre Lens et là il a fait un très très bon match vraiment contre Lille vendredi soir.
Et moi j'aime bien Terem Mofi parce que alors quand vous entendez un Nigérian parler anglais, c'est plus facile à traduire qu'un Anglais. Qui
c'est
anglais.
Vrai en plus.
Parce que ça, un Anglais, un Écossais, je ne sais. Chers amis bretons qui nous écoutez, ne recrutez pas d'Écossais ou je ne sais pas, parce qu'on ne comprendra pas.
D'Irlandais peut-être.
Ouais. D'Irlandais, oui aussi, Gallois, voilà.
On évite, mais Nigérian, c'est parfait. Avec Terem Mofi, on a compris ce qu'il voulait nous dire. Et c'est vrai qu'il a vraiment fait un gros match parce que je ne sais pas si vous avez vu son but, Pierre, mais alors il y va tout en puissance hein, pour aller. Pour aller marquer ce. Enfin, pour aller offrir la passe décisive plutôt à Armand Lorienté sur l'ouverture du score et puis en renard sur le deuxième but, celui du 2-1. Une petite page de pub et on revient pour la deuxième partie de ce chapitre consacré au Merlu.
Du magazine des déchaînés du football en direct à 19h42. On continue de parler des exploits des Merlus. Deuxième match à domicile et deuxième victoire.
Oui, deuxième victoire, celle-là contre Lille. On l'a dit, Terem Mofi a beaucoup pesé. Il y en a un autre qui y est pour beaucoup aussi dans ce succès. C'est son compère d'attaque, Armand Lorienté. Que pense-t-il de son duo? Comment a-t-il trouvé son duo? Explication de Christophe Pélissier.
Oui, il ne faut pas oublier que l'année dernière, Armand a été très performant, notamment le mois de février et mars, où il avait été très décisif, même pour nous. cette année le départ de Louis. Je dis aussi que des fois le recrutement il est à l'interne. Et je savais qu'Armand avait la capacité d'eux. Après c'est l'entente entre les deux. Mais je reviens sur Mofi parce que s'entendre avec lui, que ce soit sur le plan footballistique et humain, c'est, croyez-moi, c'est très très facile. Donc il bonifie aussi les gens qu'il a autour. Mais je crois que ce soir Armand, bien sûr Mofi fait une énorme performance, mais Armand aussi parce qu'il a fait des courses qui ont vraiment fait mal, que ce soit offensive et défensive, ce qu'il n'avait pas trop l'habitude de faire. Et je crois qu'il est en train de franchir un palier parce que tout simplement c'est un joueur qui est à l'écoute et qui veut progresser et qui prend les infos qu'on lui donne avec le staff pour progresser.
Ouais, une progression alors fulgurante, je sais pas, mais en tout cas ça monte crescendo hein, du côté d'Armand Lorienté qui était parfois inconstant jusque-là. Alors il faudra attendre encore quelques semaines pour voir si cette constance perdure, mais jusqu'à présent il est quand même passeur, il est buteur pardon à Lens juste avant la trêve. Là il est encore buteur, il était aussi dans les bons coups hein, contre Saint-Etienne notamment, contre Monaco il me semble qu'il avait été plutôt pas mal aussi, même si c'est vrai qu'il y avait moins d'occasions sur ce match. La progression d'Armand Lorienté, comment Christophe Pélissier le hisse-t-il à ce niveau? On écoute à nouveau l'entraîneur du FC Lorient.
Il sait que j'ai confiance en lui, qu'il sait ce que j'attends aussi d'un attaquant, dans les efforts, que ce soit dans les remplacements, dans les efforts de prise d'espace, dans sa capacité aussi à être bon de haut jeu en remise. Voilà, c'est des évaluations qu'on fait souvent avec lui en vidéo individuelle, et je crois que c'est important parce que comme je dis, c'est un garçon qui a des qualités, on le sait, des qualités naturelles, d'explosivité, tout ça, mais ce qui est important, c'est ce qu'il a envie de faire. Et il a envie de progresser, on le voit, il est à l'écoute.
Oui, cette progression-là, eh ben, elle arrive avec, on va dire, un panel qui s'élargit, notamment défensif, le soulignait Christophe Pélissier. Et ça aide le FCL, évidemment, à grandir aussi dans ce championnat. On a dit Lorient 8e avec 8 points. Donc c'est un bon début de saison. 7 buts marqués, 7 concédés. On fait le point d'ailleurs sur ce classement d'une manière générale. Le PSG en tête, parce que le PSG a tout gagné, 15 points. Deuxième, Angers, 11 points. Troisième, Marseille avec 10 unités. Et juste derrière, on retrouve Nice et Lens à égalité de points, 9 chacun. Clermont est 8e, donc 6e pardon, avec 8 points. On a dit Lorient également 8 points. Un petit peu plus bas, le Stade Rennais 11e avec 5 unités. On descend encore un petit peu, le FC Nantes est 14e avec 4 points. Et puis dans le bas de tableau, avec 3 points, Metz 17e, Brest 18e, Saint-Etienne 19e et les Girondins de Bordeaux dernier avec 2 points. Bordeaux battu hier dans le temps additionnel par le Racing Club de Lens, là où ça va mal aussi.
Ouais, ça va mal pour Bordeaux. Dur pour cette équipe qui s'en est sortie de justesse aussi en fin de saison dernière. Bon, j'ai l'impression que le début de saison, on a un peu inversé les rôles entre Brest et Lorient.
C'est vrai.
Ça avait été très difficile le début de saison pour les Merlus l'année dernière. Ça allait beaucoup mieux pour Brest. Là, les rôles, c'est un peu inversé.
C'est inversé. Brest avait démarré par 2 défaites, mais derrière avait très vite gagné 2 matchs aussi.
Ouais. Ah ouais. C'était plutôt un bon début de saison, pour Brest. Et... Bon, voilà. En tout cas, c'est vrai qu'il y a plusieurs clubs là qui vont se battre pour le maintien dans les prochains mois. On pense surtout à Bordeaux, Saint-Etienne, Metz. Il y aura Brest, forcément, qui risque de faire partie du lot. Et puis Nantes aussi, qui vient d'enchaîner sa 3e défaite consécutive. Voilà, ce sont des clubs qui vont certainement devoir se battre pendant encore un petit moment pour éviter la zone rouge dans la fin du championnat.
Exactement. Un dernier petit mot de Lorient quand même, avec une recrue, parce qu'il y en avait une aussi qui a joué sur ce match, c'est Moritz Jens. On écoute l'impression de Christophe Pélissier sur son nouveau défenseur allemand.
Bon, déjà, il faut savoir qu'il voulait sortir depuis la 60e, parce qu'il avait des crampes déjà à la mi-temps. Mais je faisais le sourd, j'entendais pas le public, parce que... Voilà, il a montré de suite sa capacité athlétique à mener un plus, sa capacité aussi à couvrir les espaces. Parce que quand notre philosophie, c'est d'envoyer les pistons quand même assez haut, donc il y a des espaces qui se libèrent. Et heureusement, on a des joueurs comme Boulan, comme Moritz, qui sont capables de couvrir ces espaces. Et Julien qui drive ces deux joueurs très très bien. Donc j'ai fait le sourd jusqu'à la 90e.
Voilà. Bon début de championnat.
Quand même, parce que moi, si j'ai des crampes, moi, je veux sortir.
Des crampes à la mi-temps, et il a refusé de le faire sortir, Christophe Pélissier. Et ça a marché, donc bon.
C'est vrai, tant mieux.
Voilà pour la Ligue 1, et place maintenant aussi au National, parce qu'on a eu un bon résultat en National, un autre moins bon pour les clubs bretons, mais le Stade Briochin a gagné pour la deuxième fois de rang à domicile, Pierre.
Oui, avec ce succès, donc 2-1 pour les Briochins, avec notamment un but de quelqu'un qu'on connaît bien sur Radio Bonheur. C'est Christophe Carbrat qui a permis donc à cette équipe briochine de l'emporter, d'ouvrir le score déjà sur cette rencontre face à Orléans. C'était à la 36e, il y avait 1-0 à la mi-temps. Touré a égalisé à la 49e pour Orléans, mais Saint-Brieuc n'a pas douté longtemps puisque Morgane Jean-Pierre a marqué le deuxième but à la 61e. Orléans avec Touré le buteur a été réduit à 10 en fin de rencontre dans le dernier quart d'heure, ce qui a permis donc à Saint-Brieuc de remporter effectivement son deuxième match et de se replacer dans le cœur du classement de ce championnat de national. Par contre effectivement, eh bien, la mauvaise surprise pour Concarneau qui était leader, on en parlait la semaine dernière, Concarneau qui a chuté sur la pelouse de Cholet, 4-2, ouverture du score de Cholet avec Fortuné à la 15e, égalisation concarnoise, Nomel à 18e. Il y a eu une fin de première période et un début de seconde assez folle puisque Cholet a marqué le deuxième but à la 45e plus 2 sur pénalty. Juste au retour des vestiaires, Tom Renault marque contre son camp pour Concarneau. Il y a donc 2 buts partout. Malheureusement, un doublé de Yankuba Jarjou a permis à Cholet de prendre le large en fin de rencontre, 77e et 91e minute. Au classement, premier de ce championnat, c'est Annecy qui en a collé 6 au Red Star vendredi dernier. Il fallait pas être parisien dans le cette journée de nationale parce que je crois qu'il y a eu 6-0 pour Annecy et 6-0 ou 6-1 contre Creteil.
Mmh. Ouais, Creteil 6-1 a perdu, pour Bourg-en-Bresse qui est deuxième du coup. Ouais.
Et voilà, même le PFC, alors c'est pas en national, mais même le PFC a perdu.
C'est vrai.
Vous savez que j'y ai pensé avant le match, je me suis dit ne le dis pas Pierrot, ça va te porter la poisse. Ben, j'ai très bien fait de pas en parler, même si l'ampleur du score n'était pas la même. Donc Annecy premier 13 points, 2 deuxième Bourg-Perona et Villefranche avec 12 points, Châteauroux et Le Mans sont à 11 points mais Le Mans joue en ce moment contre Sedan, 11 points aussi pour Concarneau, 8 points pour Saint-Brieuc qui est 9e tout comme Boulogne et Laval, Avranches 12e avec 7 points comme Chambly et puis les relégables sont le Red Star 6 points, le Red Star qui s'est séparé de son entraîneur aujourd'hui Vincent Bordeaux. Peut-être la place pour Habib Bey qui est adjoint de cette équipe depuis le début de la saison. Orléans surprenant 16e aussi, Créteil 17e et Bastia Borgo dernier avec 12 points.
Et à noter qu'à la mi-temps du match Le Mans-Sedan qui se joue actuellement, le dernier match de cette sixième journée, 0-0 à la pause. On vous tiendra bien sûr informé du résultat final parce que Le Mans pourrait revenir sur Concarneau en cas de match nul ou de victoire. En National 2, ça se jouait aussi ce week-end.
Et enfin la victoire pour Saint-Malo. On va y venir dans quelques instants puisqu'il y a une équipe qui caracole en tête depuis quelques semaines maintenant. C'est la réserve de Lorient qui s'est imposée 4-1 à Blois. Alors qu'ils étaient menés 1-0, but de Touré contre son camp, Bourlès qui a déjà joué en Ligue 1, Ouattara, Soumaoro pour Lorient. Soumano, effectivement, ouais. Mais c'est petit sur mon journal. Plamenec a fait match nul 0-0 contre Poissy. Vitré a encore perdu, malheureusement, 6e défaite en 6 matchs.
Et toujours pas de but marqué.
Et exactement, c'est vrai, 0 but inscrit, 11 encaissés, but de Henry. Et puis, donc, la réserve de Guingamp qui a fait match nul, 1 but partout à Saint-Privé-Saint-Hilaire. Balouj a marqué pour Guingamp, Ouattara a égalisé. Au classement, retrouve Lorient B avec 14 points premier, 3e Vannes et Guingamp B avec 11 points. Et on descend pour trouver 3 équipes bretonnes aux 3 dernières places. Saint-Malo, 14e avec 4 points, 15e Plabennec 2 points, 16e Vitré 0 points. Et donc Saint-Malo qui a gagné son premier match de la saison contre le Chartres de Jean-Pierre Papin qui menait dès la 9e minute avec un but de Javorski. Mais dans les 6 dernières minutes, retournement de situation. Vdaouche à la 84e minute et Curtius à la 90e ont permis à Saint-Malo de l'emporter. On écoute d'ailleurs le deuxième buteur malouin, Joshua Curtius, au micro de l'USSM après le match.
En tout cas, on avait tous envie d'aller la chercher. On savait qu'il y avait la place. Comme le coach a dit tout à l'heure, on avait analysé l'équipe de Chartres. Et voilà, sur les fins de match, c'était compliqué pour eux. Voilà, on est une équipe jeune. On sait qu'on lâche rien. C'est compliqué pour nous depuis le début, mais on a un groupe vraiment soudé. Voilà, comme le coach a dit, il y a des blessés. C'est aussi pour eux qu'on va chercher tout ça parce que vraiment, on est tous ensemble en fait. On est dans le même bateau. On n'a pas eu de bons résultats, mais on continue de travailler dur à l'entraînement et on avait vraiment envie d'aller chercher cette victoire.
Et juste après la pause, on parle de National 3 avec l'entraîneur de Lannion, Rémi Le Bourdoulou, qui a gagné son premier match ce week-end.
Tu lui donnes quel âge à Mamini ?
Je sais pas, 2 ans ?
Elle en a 6, mais c'est que j'en prends soin, moi.
Avec le réseau Mini-Service, profitez de toute l'expertise des techniciens pour l'entretien de votre Mini et préservez-la pour longtemps. Votre Mini a plus de 6 ans ? Avec l'offre Avantage 6+, bénéficiez toute l'année de tarifs préférentiels sur les principales opérations d'entretien. Et jusqu'au 15 octobre, profitez de 50 euros de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. Mini-Service, des experts dédiés à votre Mini. Mini. Voir conditions et réseaux participants sur mini.fr.
Chez Aesio Mutuel, nous suivons une autre voie, celle du partage. Ce qui veut dire penser aux autres plutôt qu'à soi et en faire toujours plus pour la santé de vos salariés. Avec notre complémentaire santé entreprise qui inclut des ateliers de prévention sur mesure, des consultations médicales à distance 24 heures sur 24 et une assistance psychologique. Souscription en ligne ou avec un expert, vous décidez. Aesio Mutuel, décidons ensemble de vivre mieux.
Informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers entreprises.
C'est quoi cet engin ? On dirait des lunettes avec des essuie-glaces intégrés.
Oui, c'est pour les mouettes. Hein ? Comme ça, elles pourront survoler la mer sans avoir de gouttelettes dans les yeux.
Mais ça sert à rien ton truc.
Tu connais rien aux mouettes.
Mais bien sûr.
Si vous aussi vous préférez ce qui est utile et que vous possédez une Dacia, choisissez la révision Dacia Essentiel et ses 86 points de contrôle. Et en ce moment, les balais d'essuie-glaces sont offerts. L'entretien Dacia, des offres vraiment utiles à votre Dacia. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 octobre. Conditions et prise de rendez-vous sur Dacia.fr.
Abri Sud.
Alors ma chérie, tu lézardes sous ta pergola Abri Sud ?
Tout à fait mon cœur. C'est le paradis. Tu peux baisser les stores ?
C'est comme si c'était fait.
Un peu moins, un peu plus ?
Oui, voilà.
Oh, voilà, c'est parfait. T'irai pas me chercher un jus de fruits ?
Il y a beaucoup d'options chez Abri Sud, hein, mais l'option jus de fruits, je ne crois pas.
Abri Sud.
Le bonheur plein sud.
BMW.
Quand vous découvrirez qu'en ce moment, la BMW Série 1 édition M-Design est à partir de 295 euros par mois, avec sa caméra de recul, son GPS grand écran et sa connectivité pour smartphone, vous réaliserez que la seule chose qui lui manque, c'est vous. Pendant les journées portes ouvertes, rendez-vous chez votre concessionnaire ou sur bmw.fr.
Exemple pour une BMW 1/16e édition M-Design avec majoration du premier loyer de 2600 euros. Offre LLD 36 mois 30 000 km réservée aux particuliers et valable jusqu'au 30 septembre. Si accord par BMW Finance. Détails sur bmw.fr.
Radio Bonheur, le magazine des déchaînés du football, 19h55.
Oui, et on termine cette première heure du magazine par le National 3 et par une équipe qui a retrouvé le sourire ce week-end. C'est le Lannion FC de Rémi Le Bourdoulou. Bonsoir Rémi.
Bonsoir.
Alors, victoire 2-1 contre Locminé ce week-end, but de David et de Leméoté. Pour votre formation, on a senti, selon les témoins au stade, beaucoup de joie au coup de sifflet final après deux lourdes défaites sur les deux premières journées. C'est le sentiment qui vous anime toujours, coach, deux jours après ?
Ouais, complètement, ouais. Complètement, forcément, après les deux déconvenues de nos deux premiers matchs, forcément ce troisième match était déjà un match important d'un point de vue comptable tout d'abord, et puis aussi pour se rassurer nos supporters, puisque nous étions aussi à domicile, sachant que fallait pas oublier aussi que nous avions quand même pris 7 buts en 2 matchs et marqué 0, donc il y avait forcément un peu d'angoisse avant ce match, pour tout dire. Et puis, on l'a bien senti d'ailleurs à l'entame du match où nos joueurs ont quand même été assez fébriles. Hein.
Qu'est-ce qui a été le déclic, justement ? C'est l'ouverture du score ?
Le déclic, il y a plusieurs choses. La première, c'est que nous avons une préparation extrêmement difficile. Comme j'ai rarement vu depuis que je coach, ça fait 25 ans, on a eu une préparation où nous avons énormément de joueurs blessés. Tous nos matchs amicaux, nos matchs de préparation, on a rarement joué avec la même défense. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y avait vraiment une volonté. Alors, d'une part aussi, on a récupéré des joueurs, Damien Boisvilliers, Steve Deveau, qui sont des joueurs importants dans notre groupe cette année. Steve Deveau l'est déjà depuis plusieurs années, mais Damien qui vient d'arriver au club. Donc, c'était des signes importants aussi pour les joueurs qui étaient sur ces deux premiers matchs. Et voilà, donc c'était un peu rassurant aussi pour nous. Et puis, on avait à cœur tous ensemble d'aller chercher un résultat vraiment dans l'effort, peut-être en y mettant un peu moins la manière, mais au moins d'être généreux, d'être rigoureux défensivement. C'est ce qu'on a su faire. Ouais.
C'est intéressant parce qu'on avait Stéphane Lamand, l'entraîneur de Dinan Léon, qui est dans votre poule aussi la semaine dernière. Il nous disait aussi que c'était la pire préparation qu'il avait connue dans sa carrière d'entraîneur. Vous accordez ça à quoi? C'est juste la malchance? C'est le fait de reprendre après plusieurs mois d'arrêt à cause du Covid? Comment vous expliquez ça?
Ouais, très clairement, c'est une coupure. C'est une coupure bien trop longue pour des joueurs qui quand même sont sur un rythme de 4 voire 5 séances pendant la prépa d'été. Les joueurs ont pris des mauvaises habitudes, ça c'est clair. Sur les 8 mois de pause, là, des mauvaises habitudes qu'on peut comprendre. Hein. Faut pas oublier que ce sont des joueurs amateurs qui travaillent, qui ont pour certains des familles, des enfants. Donc bon, c'était plus dur de les ramener au stade, s'entraîner en semaine, sachant qu'il n'y avait pas de compétition. Les joueurs, quand on s'entraîne 4 fois par semaine, bah, on aime la compétition, on aime le résultat. Résultat du week-end, on sait pourquoi on s'entraîne. Bon, là, quand il n'y a pas de match, c'était plus dur, donc certains ont pris des mauvaises habitudes. Ça a été très dur de les remettre au travail. Ça a été aussi, faut le dire aussi, certains avaient pris quelques petits kilos en trop. Donc il a fallu rectifier ça. Mais c'est juste normal, quel que soit le sport, s'il suffisait de se remettre 5 semaines en route et puis que ça repart comme avant, ça fonctionne pas comme ça.
Vous parliez des 7 buts encaissés en 2 matchs et des défaites 3-0 et 4-0 pour recommencer votre saison. Comment avez-vous géré votre semaine pour remettre votre équipe à l'endroit et la porter vers la première victoire samedi dernier?
Alors, il y a un fait qui est important, c'est que dans la hiérarchie un petit peu de notre championnat, de la valeur d'équipe, bon, la JSI Pontivy, la réserve du Stade Brestois sont à placer pour moi dans les 3-4 meilleures équipes. Donc ça, c'est une première chose qui nous a permis aussi de préparer le match en insistant bien là-dessus, en insistant bien sur le fait que sur ces 2 matchs-là, nous avons eu des périodes de jeu où nous avons plutôt bien rivalisé avec nos adversaires. Je pense notamment au Stade Brestois, où jusqu'à l'heure de jeu, c'était impossible de savoir vers où allait se diriger le résultat, voir vers quelle équipe allait faire balancer le résultat en son sens. Et à l'heure de jeu, on a contre le Stade Brestois, on a physiquement craqué. Et puis un but, et quand vous êtes à la limite de la rupture physiquement, et bien en étant mené, le mental en prend un coup aussi. On a abandonné pour dire les choses le dernier quart d'heure. Donc il y a eu quand même des séquences qui étaient intéressantes, parce que contre le Stade Brestois, à la première mi-temps, on a été en danger sur coup de pied arrêté, alors que nous on s'est procuré quand même 2 grosses situations. Donc voilà.
Il est 20h, vous l'avez entendu, cher Rémi Le Bourdoulous, on est pile à l'heure pour cette fin d'interview. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le magazine des déchaînés du football. Bonne entrée en Coupe de France, je crois, le week-end prochain.
Oui c'est ça, ouais, à Port-Digby.
Eh bien, bonne chance à vous, on espère, pourquoi pas. Je crois que c'était un 7e tour il y a quelques années contre Guingamp pour le Lannion FC. Bonne soirée et à très vite sur Radio Bonheur.
Je vous remercie, à bientôt.
À bientôt, merci à vous.
Merci beaucoup, bonsoir. Retour du magazine des déchaînés du football dans un instant après les infos. À tout de suite.
Bonsoir à tous. Plus de 8 mois après avoir essuyé les plâtres de la vaccination, les établissements pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, ont ressorti les seringues. Le gouvernement a officiellement lancé ce lundi la campagne d'injection d'une 3e dose de vaccin anti-Covid dans les maisons de retraite afin de maintenir un haut niveau de protection des résidents, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Environ 600 000 seniors sont concernés. Un hélicoptère de la sécurité civile avec 5 personnes à son bord s'est écrasé peu avant 16h30 ce dimanche en amont de Villard-de-Lans en Isère. Le mécanicien de l'appareil est décédé, les autres membres de l'équipage, le pilote, un médecin du SAMU et 2 gendarmes du peloton de gendarmerie de haute montagne ont été pris en charge par les équipes médicales et évacués vers le CHU de Grenoble. A noter que le ministre de la Santé, Olivier Véran, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se sont rendus sur place ce lundi. Ce dernier a annoncé que le mécanicien sera décoré de la Légion d'honneur pour le saluer à titre posthume. L'association Respire de lutte contre la pollution atmosphérique vient de voir son recours d'urgence retoqué par la justice administrative. L'association avait lancé une procédure en urgence contre la volte-face du gouvernement. Le 11 août dernier était publié au journal officiel un décret instaurant un contrôle technique pour les deux roues à partir de janvier 2023, une mesure imposée par une directive de l'UE. Mais dès le lendemain, sur demande d'Emmanuel Macron et face à la grogne des fédérations de motards, ce décret avait été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Un nouveau vol destiné à évacuer des Français et leurs proches voulant fuir Kaboul a atterri ce lundi à Paris. Les 49 passagers avaient d'abord pu rejoindre Doha vendredi dernier lors du deuxième vol d'évacuation de Kaboul vers le Qatar depuis la fin du pont aérien occidental et le départ des Américains d'Afghanistan fin août dernier. En sport et en football, les retrouvailles sont programmées en octobre dans un lieu qui reste encore à déterminer. La rencontre de Ligue 1 entre Nice et Marseille, arrêtée le 22 août dernier après de violents incidents à l'Allianz Riviera, sera donc rejouée le mercredi 27 octobre à 21h. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la Ligue de football professionnelle.
Magazine des déchaînés du football, place maintenant à la Ligue 2 et place donc à l'en avant Guingamp. Victoire, nouvelle victoire des Guingampais à l'extérieur, 1-0 au Paris Football Club. C'était un peu inattendu.
Oui, mais ça va peut-être finir par ne plus être si inattendu que cela, de voir les Guingampais réaliser ce genre de performance. Ils avaient réalisé quasiment la même à Auxerre il y a 3 semaines. Cette équipe qui est régulière dans son comportement et qui a réussi à avoir donc l'efficacité nécessaire pour faire basculer ce genre de match en sa faveur, ce qu'elle n'arrive pas encore à faire à domicile. Et il faudra encore attendre pour le prochain match à domicile, parce que ce sera dans 8 jours contre Sochaux. Mais cette équipe offre des garanties. Cette équipe est tout simplement une équipe. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait plus à Guingamp. On y reviendra dans quelques instants en profondeur, évidemment. Mais avant, si vous n'étiez pas avec nous samedi après-midi sur Radio Bonheur, voici le résumé en musique de ce Paris Football Club en avant Guingamp, marqué notamment par les prouesses d'un certain Enzo Basilio.
Ah bah attention à ce ballon pour Laura dans la surface de réparation, pas de hors-jeu pour Laura qui frappe, Basilio qui renvoie et hors-jeu. Hors-jeu de Lopez. Oui, oui, c'était juste devant nous. Lopez qui a marqué, mais il avait un mètre d'avance. De relancer, attention, la relance est contrée, on rend le ballon 20 mètres avec Laura pour Lopez, ballon maintenant pour Mandouki en position de frappe de loin, la frappe de Mandouki et la belle parade encore d'Enzo Basilio sur son côté gauche après le rebond à ras de terre. Et encore une fois la perte de balle à 25 mètres de Baptiste Roux, Lopez avec ce ballon dans la surface et peut-être l'ouverture du score dans Camara. Excellente intervention de Camara qui vient plonger dans les pieds de Diakité et Basilio qui a pu ensuite récupérer le cadeau. Mais attention, on leur offre les munitions là dans ce début de match. C'est ce genre de situation sur lesquelles on a du mal depuis le début de saison. Mais là, pourquoi pas? Bien joué Ndenbe pour Feton. Les Parisiens qui se gênent un peu. Feton qui récupère 25 mètres. Ballon pour Barthélemy. Occasion pour Barthélemy. La frappe. Poteau pour Barthélemy sur cette superbe action. Guingamp pèse reparti de derrière. Repris la possession, hein, côté Guingampais là depuis 5-10 minutes. Ouais, on est à 53% de possession pour Guingamp. Barthélemy sur le côté gauche pour Feton. Oh là, qui a manqué son contrôle, mais en puissance il passe face à Bernauer. Il y a une situation énorme à gauche pour Ndenbe, il l'a vu. Centre de Ndenbe. Oh Feton, Gomis qui n'est pas en jeu, la frappe pour Abi qui marque le premier but de Charles Abi sous le maillot Guingampais. On s'est régalé dans la défense parisienne de la gauche vers la droite. Le centre de Ndenbe décalé par Mathias Feton, le centre au second poteau remisé par Gomis pour Abi qui les mains dans les poches vient marquer son premier but sous le maillot guingampais. 41e minute au terme d'un temps fort d'une longue séquence de possession. Guingamp mène 1-0 à Paris. Aux Parisiens qui ont été entreprenants, qui ont eu des occasions mais qui n'ont jamais été en position nette de but sur cette première période. Peut-être là avec Guilavogui. Oh, Basilio encore! Enzo Basilio magnifique sur cette petite passe. Bernauer, le centre de Bernauer, Laura qui est là, tête de Laura, Basilio! Mais c'est Lev Yashin dans le but de Guingampais. Enzo Basilio, infranchissable dans cette première période. Et Guingamp qui regagne les vestiaires donc avec cet avantage d'un but. On va sortir, voilà avec Carnot. Carnot qui accélère dans l'axe. Ah, il a perdu le ballon physiquement. La frappe ensuite. Oh Basilio! Incroyable encore sur cette frappe sèche de Miguel Alfarella de 25 mètres après la perte de balle de Carnot. La frappe lourde qui redescendait sous la barre de Basilio. Une claquette fabuleuse encore du dernier rempart guingampais. Plus solide, plus costaud que jamais. Mouyumba pour Merguem. Lâchez là, jouez là devant. Bon sang, c'est fini! C'est fini! Et pour la deuxième fois de la saison, Guingamp met fin à l'invincibilité d'un des favoris de la Ligue 2 dans son stade. Après Auxerre, c'est Paris.
Ouais, deux belles victoires à l'extérieur des Guingampais. Oui. C'est étonnant que Guingamp n'y arrive pas mieux à domicile. Enfin, on aimerait que ça se concrétise maintenant rapidement au Roudourou.
C'est vrai, mais c'est souvent les scénarios des matchs qui veulent ça. Gaëtan, c'est un peu trivial, mais à domicile, vous êtes obligé de faire le jeu.
Exactement.
L'équipe d'en avant n'a pas aujourd'hui trouvé encore les clés pour déverrouiller les grosses défenses, les coffres forts adverses. Par contre, à l'extérieur, surtout chez des équipes qui jouent les hauts tableaux, qui jouent, comme Auxerre et le Paris Football Club, eh bien, d'une part, vous défendez bien, parce que globalement, Guingamp défend bien quand il ne commet pas d'erreur individuelle depuis le début de saison. Et puis, ben, offensivement, vous avez un peu plus d'espace pour pouvoir jouer les coups.
Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Guingamp, pour l'instant, c'est vrai, on l'a vu à domicile contre Valenciennes, contre Amiens aussi. Alors, un peu moins contre Ajaccio quand même, mais avoir ce ballon, avoir le contrôle des opérations sans finalement être vraiment dangereux une bonne partie du match. il y avait cette maîtrise, mais sans plus d'occasion que cela. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, mais alors Guingamp n'a pas eu des tonnes d'occasions au Paris FC, mais a su prendre ses défenses à défaut, parce que ben, il y a les espaces se créent quand les équipes adverses font le jeu. Guingamp profite de ces espaces-là, et pour l'instant, Guingamp ben, se transforme quelque part en une équipe de contre en ce début de saison. Alors c'est un peu tôt sans doute pour la catégoriser comme ça, mais n'empêche qu'elle a un petit peu cette allure sur ses matchs à l'extérieur, et on le voit quand il faut faire le jeu à la maison, c'est plus compliqué, parce que ouais, c'est ce qu'il y a de plus dur à mettre en place aussi.
Alors équipe de contre, oui, on l'avait notamment vu à Auxerre, mais à Paris les meilleures occasions sont quand même arrivées sur des séquences de passes assez longues, oui. Le poteau de Barthélemy, le but de Charles Abbey. Guingamp a progressé hein, dans on va dire là, je crois que c'est Dumont qui parle de maîtrise des tempos, c'est plutôt intéressant. Par contre en seconde période, il n'y a pas eu assez justement de transition, de contre-attaque. On aurait pu espérer un peu plus du côté de Guingamp, mais bon, c'est passé comme ça, notamment grâce à la performance majuscule d'Enzo Basilio. La rubrique demain sera consacrée évidemment au gardien guingampais, qui nous parlera de ses progrès depuis un an, des petits défauts encore à peaufiner selon lui, mais on lui a posé la question. Alors interview de 2021, vous savez qu'il n'y a plus de zone mixte, vous savez aussi, on vous le disait, que les joueurs avaient beaucoup de familles, d'amis qui étaient venus les voir samedi à Paris. Bien, Enzo Basilio, on l'a retrouvé sur le trottoir, juste à la sortie du stade. On n'était plus du tout sur le stade, on n'était plus du tout sur le parking. On l'a retrouvé avec deux amis à lui, on l'a extirpé 3 minutes pour avoir sa réaction, et notamment pour savoir, selon lui, quel était le plus beau de ses 11 arrêts samedi après-midi.
Il y a des jours comme ça où il y a tout qui nous sourit, on a l'impression d'attirer tous les ballons. Donc ce soir, ça a été le cas. Alors en fin de première mi-temps, j'ai un face-à-face sur mon côté droit où je crois que c'est ma main gauche qui l'enlève, qui la met en corner. C'est des choses qu'on pointe du dos au quotidien, c'est face-à-face avec Ronald Thomas, mon coach des gardiens. Et sur cette situation, je garde les mains bien élevées, donc je suis content, ça récompense le travail du quotidien.
Cette parade, Gaëtan, elle est fabuleuse, ah ouais. Parce que vraiment, je crois que sur le commentaire, je dis qu'il déploie ses ailes. Vraiment, il a bougé ses jambes et ses bras de manière à essayer de prendre le plus de place possible pour éviter le but.
Et c'est vrai qu'il a cette... c'est un peu ce qui ressort de beaucoup d'arrêts. Il prend énormément de place, Enzo Basilio. Et pourtant, c'est pas... Alors, il fait 1m87, je crois, mais c'est pas non plus un mastodonte, on va dire, dans le but, comme peuvent l'être certains gardiens. Malgré tout, il se déploie énormément, laisse très peu de place aux attaquants. Et c'est comme ça qu'il arrive souvent à s'en sortir aussi dans des face-à-face, notamment.
Ouais, parce qu'avec un gardien, je dirais, lambda... Guingamp n'aurait sans doute pas gagné ce match.
Ah non, il a fallu un très grand gardien pour gagner au Paris FC. Mais
alors, c'est très bien de noter la performance de Basilio, c'est ce qu'on fait et il faut le dire parce qu'il le mérite. Mais ce qui a été aussi étonnant dans ce match à Paris, c'est que évidemment la fiche statistique, elle est largement en faveur de Paris. 18 tirs à 5, 11 tirs cadrés, c'est énorme. Et on le disait au début du match, Paris, c'est l'équipe qui a la meilleure moyenne de tirs par match. 16 tirs en moyenne par match. Là, ça a été 18. Mais sur ces 18 tirs, il y en a eu au moins la moitié où les Parisiens n'étaient pas en bonne position pour être dangereux. C'était des frappes, mais parfois, ils ont arrosé de loin parce qu'ils n'arrivaient pas à s'approcher de la défense. Et ouais, puis aussi, il y a eu un moment, une intervention de Camara in extremis devant Basilio en fin de première période. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On y viendra dans quelques instants avec Dumont, mais notamment avec cette défense rajeunie, hein. Bilingui, Camara, Roux, Ndenbe, il n'y en avait pas deux sur les quatre qui étaient programmés pour être titulaires cette saison en défense. Il y avait sans doute Ndenbe, Bilingui était parti en tant que doublure, Camara était numéro 3 ou 4 dans la hiérarchie, Roux est plutôt milieu de terrain. Mais là, ça prouve donc que la santé est bonne du côté de Guingamp, et elle est encore meilleure quand devant, vous avez votre attaquant qui marque pour son premier match. Ça aussi, c'est le signe d'une bonne santé. C'est ce qui est arrivé à Charles Abbey, buteur à la 41e minute. Voici l'avis du coach Stéphane Dumont sur le match de son buteur.
Bah oui, très positif, parce qu'il est là, pas que pour ça, mais il est là aussi pour ça. Et puis, il n'a pas tout fait parfaitement, par contre il pèse sur le front de l'attaque, il est en capacité à caler des ballons, il faut qu'il assimile les principes et le jeu de l'équipe. Mais par contre, à l'image du but qu'on met, on ne doit rien à personne. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il y a du monde dans la surface à ce moment-là, ce qu'on veut. Et du coup, à se retrouver avec un choix, on en a plusieurs. Il est là pour la finir, c'est très bien.
Oui, ce qui était étonnant sur ce but, Dominique, on en parlait durant le direct, c'est que moi j'ai eu l'impression qu'il y a eu trois fois hors-jeu sur l'action de Guingamp, mais en fait non. Pour avoir revu à tête reposée le but, c'est Ndembe qui entre dans la surface assez proche de la ligne des 6 mètres et qui centre en retrait pour Feton. Et il y avait un défenseur sur lui qui s'est retrouvé au sol, et le temps que ce défenseur se relève, eh ben, il a remis tous les Guingampais en jeu. C'est-à-dire que Gomis notamment et Abi étaient derrière la ligne défensive de Paris, mais il y en avait un qui traînait. Du coup, bah, c'est un très bon arbitrage parce que le pauvre, je crois que c'est Ousmane Kanté qui était au sol, il a remis en jeu tout le monde du côté de Guingamp,
puis,
ce qui a permis donc.
Et puis ils étaient nombreux, les Guingampais dans la surface, ouais. Ils étaient quatre. Et bon, c'est vrai que c'était dur pour Abi de la manquer, mais il était là au bon endroit, au bon moment. C'est ça qui est important.
Oui,
et puis il faut aussi souligner ce que fait Yannick Gomis sur cette action. On parle souvent de lucidité face au but. Là, pour le coup, de servir Abi alors que De Marconnet sort quand même assez vite. Il peut frapper et il fait l'excellent choix, Yannick Gomis, de décaler Abi qui marque.
Lui qui en plus n'est pas trop en confiance dans ce début de saison, en match officiel.
Il aurait pu se la garder pour lui en se disant bah voilà, j'ai absolument besoin de marquer parce qu'il n'a pas encore marqué cette saison, Gomis. Non, il choisit la meilleure solution qui est de servir Abi, et ça c'est aussi à souligner parce que c'est un joli geste.
Lui qui était le capitaine guingampais et capitaine tout court pour la première fois de sa carrière professionnelle en match officiel. A noter aussi que Lee Volant a récupéré le brassard en fin de rencontre. Gaëtan, je ne sais pas si vous avez suivi la retransmission sur Radio Bonheur ou les petits tweets que l'on a fait, mais est-ce que vous vous souvenez de joueurs, de buteurs qui ont marqué premier match?
J'ai suivi ça et du coup j'en ai deux en tête, les deux derniers je crois. Oui. Brian Pelé et Jérémy Mello.
Oui, il y en avait 9, je crois, tout, hein, c'est
en
ça.
En 2019, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abi est 8e depuis l'an 2000.
Ouais, 8e
a marqué sur son 2000. Premier match. Ouais. 2008, Christian Bacilla contre Guignon en Coupe de la Ligue. 2002, Wagno Eloi au Havre en Ligue 1. 6 mois avant, en janvier, Didier Drogba avait marqué sur son premier match à Metz. Et puis en 2000, là, la particularité, c'était deux joueurs, donc deux recrues de Guingamp, mais qui étaient déjà passés par en avant. Stéphane Carnot contre Toulouse et Hubert Fournier contre Saint-Etienne. Voilà, donc c'est assez rare. Certains nous parlaient aussi de Sébastien Grax en 2009, qui avait marqué effectivement pour son premier match deux championnats avec Guingamp, mais il avait joué le trophée des champions juste avant à Montréal contre Bordeaux, donc ça n'est pas comptabilisé comme un buteur sur son premier match. Guingamp donc qui l'a emporté 1-0 dans un match aux plusieurs visages, parce qu'il y a eu un premier quart d'heure en faveur de Paris avec notamment beaucoup de pertes de balles, beaucoup de situations qui ont découlé de pertes de balles. Guingamp ensuite a remis le pied sur le ballon et a marqué. La seconde période a été relativement tranquille jusqu'au dernier quart d'heure, mais surtout Guingamp a réussi à minimiser ses pertes de balles qui ont fait son malheur depuis le début de saison. 3 buts sur 5 sont issus de ça. Et en début de partie, c'était compliqué. Écoutez Stéphane Dumont sur les quelques petits réglages pour que ces étourderies n'arrivent plus en seconde période.
Le PFC est une très très belle équipe, mais elle excelle encore plus quand on peut lui donner ces ballons-là, qu'on se déséquilibre et qu'on lui offre de l'espace et de la vitesse à l'approche de notre but. Donc ça a été un peu... Mais en même temps, à chaque fois qu'on a réussi à le faire proprement, on a eu l'occasion de pouvoir monter le ballon et de monter le bloc et de se créer des situations. En deuxième, bon, à la mi-temps, on a rectifié le tir, c'est-à-dire que la seule modification qu'on a fait à la mi-temps et qui nous a permis quand même, surtout en fin de première et en deuxième, c'est à Max d'être un peu moins axe, de venir se mettre un peu dans les couloirs entre le 6 et l'excentré adverse pour profiter un peu de 3 contre 2 dans les couloirs plutôt que de toujours rechercher cet axe et d'y venir un peu plus tard sur le terrain. Et ça nous a permis d'éviter des pertes maladroites au milieu du terrain en seconde période.
Ouais, Barthelmé donc qui a dû aller s'exiler un petit peu sur les côtés pour mieux ressortir les ballons. Barthelmé est d'une importance capitale hein, dans ce match. On fera une rubrique sur lui, je crois, vendredi pour signaler ce rôle important en l'absence.
Il était bien meilleur 10. À ce poste-là d'ailleurs que sur les côtés depuis le début de la saison. Il a été, je trouve... beaucoup plus juste et dans les bons coups, alors que sur le côté on avait du mal à le sentir faire la différence, peut-être au Havre sur la première journée, mais beaucoup moins après, et là par contre il a vraiment fait un très bon match.
Il va y avoir embouteillage avec le retour de Mshangama, mais tant mieux. Il vaut mieux avoir ce genre de problème pour un entraîneur. 20h20 ou 21 à ma montre qui marche, et on se retrouve juste après la dernière page de pub et on reparle donc de cette victoire guingampaise à Paris.
C'est bon de savoir que vous appréciez nos canapés. Et que jusqu'à samedi, chez Poltron et Sofa, il y a une remise de plus de 50% sur les nouveaux modèles de la collection. Nous vous attendons dans nos magasins.
Poltron et Sofa, authentica qualità. Et voilà!
Qualité authentique, vérifiez modèles et conditions en magasin.
BMW.
Quand vous découvrirez qu'en ce moment, la BMW Série 1 édition M-Design est à partir de 295€ par mois, avec sa caméra de recul, son GPS grand écran et sa connectivité pour smartphone, vous réaliserez que la seule chose qui lui manque, c'est vous. Pendant les journées portes ouvertes, rendez-vous chez votre concessionnaire ou sur bmw.fr.
Exemple pour une BMW Unsaisie édition M-Design avec majoration du premier loyer de 2600€. Offre LLD 36 mois 30 000 km réservée aux particuliers et valable jusqu'au 30 septembre. Si accord par BMW Finance. Détails sur bmw.fr.
Sérieux ? Poignard se fête ses 50 ans toute l'année ? Ça alors ?
Eh oui ! Et jusqu'au 25 septembre avec .S, tentez de gagner une voiture et 50 trottinettes électriques. Et c'est pas tout ! .S vous offre des balais d'essuie-glace et jusqu'à 120€ pour l'achat de pneus Goodyear.
Eh ben voilà, pas de stress, il y a .S.
Voir conditions sur .S.fr.
Mardi fou, 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 fou. Oh, fou, c'est fou.
Qu'est-ce qu'il a?
Bah, on lui a dit que le mardi chez Domino's, c'était mardi fou. Toutes les pizzas médium et large à emporter sont à 7,99€. Il a pété les plombs.
Ah oui, chez Domino's, c'est fou, 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 le mardi.
Domino's.
Prix conseillé à emporter hors signature. Conditions et Domino's participants sur Domino's.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Les dernières minutes du magazine des déchaînés du football, toujours avec l'En Avant Guingamp.
Effectivement, et cette victoire 1-0 sur la pelouse du Paris Football Club, et puis cette impression de plus en plus profonde, Gaëtan, on le disait tout à l'heure, on revoit une équipe à Guingamp.
Oui, oui, oui. Oui,
c'est aussi simple que ça, ça paraît bête, hein. Mais
ouais,
c'est
une équipe. Une équipe qui se bat ensemble, qui joue ensemble, qui fait les efforts ensemble, qui tire dans le même sens tout simplement, et c'est vrai que ça, on avait un peu perdu ça, hein, ces dernières années, on l'avait souligné plusieurs fois, et là, c'est vrai qu'on a retrouvé cette unité qui forge un groupe, qui construit cette équipe. D'ailleurs, Stéphane Dumont, il avait dit, hein, dès son arrivée qu'il allait appuyer là-dessus, sur cet état d'esprit-là. Et ça se retranscrit sur les matchs, même les matchs qui ont été parfois un peu moins bons cette saison, même la première mi-temps contre Ajaccio par exemple. Bon, on a quand même senti cela revenir dans le match, et c'est ce qui a sans doute guidé Guingamp vers le match nul ce jour-là aussi. Et puis là, sur cette victoire, on l'a senti encore. C'est vraiment un groupe qui se construit, et ça, c'est évidemment fondateur pour la suite de la saison.
Guingamp s'est trouvé une équipe confirmation avec son dernier rempart, Enzo Basilio.
Ben ce soir, je pense qu'on n'a pas fait un grand match dans la tenue du ballon, mais c'est vulgaire ce que je vais dire, mais c'est un groupe de chiens qui s'est battu aujourd'hui. Et oui, il y a un esprit d'équipe cette année qu'il va falloir garder pour continuer à éditer ce genre de prestations.
Voilà, il faut continuer, et l'un des bons signaux aussi d'un groupe qui vit bien et qui tire dans le même sens, c'est quand vous chamboulez l'équipe, quand vous avez plusieurs absences, et ouais. Il y en avait à Paris samedi, on parlait de Mchangama, de Monbrice, des deux défenseurs centraux normalement titulaires, Sampaio et Lemonnier, eh bien ça s'est pas vu sur le 11 de départ, Gaëtan.
Non, et il y en a un qui est impressionnant, c'est Adi Camara, hein, qui s'impose déjà comme un patron. Il a quoi, 3 matchs de Ligue 2 dans les jambes.
Oui.
Et il s'impose déjà comme un patron. On a l'impression qu'il est là depuis 10 ans. À côté de lui, c'était Baptiste Roux qui est un défenseur central, qui a été replacé défenseur central en National 2 sous les ordres de Jean-Baptiste Debescon, qui est revenu au milieu de terrain l'année dernière en Ligue 2 avec Mecha Bazdarević. Et même là, sur ce début de saison,
il
avec
avait fait
Stéphane
quelques
Dumont.
Matchs en défense, il me semble, l'année dernière.
Oui, il en avait fait quelques-uns, mais très peu quand même, hein, globalement. Il n'y en avait pas eu beaucoup, et aucun cette saison avant ce déplacement au Paris FC. Et là, voilà, cette charnière a bien tenu. Alors, le Paris FC a cherché à les prendre dans le dos en début de match. Il y a eu 2-3 ballons un peu dangereux, mais très vite, ils ont rectifié le tir et ils ont vraiment très très bien tenu et livré une belle partie derrière.
Écoutez, au sujet de cette émulation positive, l'avis du coach Stéphane Dumont.
Ouais, mais c'est le contexte qu'on a mis en place autour de nous. C'est notre façon de faire, c'est notre relationnel, de faire en sorte qu'on est ensemble, quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, il y a des joueurs qui avaient peu ou pas joué, qui avaient peu ou pas l'habitude de ces postes-là, mais ils vivent les choses avec les autres de la même manière que depuis le début de saison, enfin, en tout cas que les autres. Donc du coup, il y avait pas, on n'avait pas le sentiment, avant le match, mais même maintenant, qu'il y avait un décalage. Encore une fois, c'est juste une victoire aujourd'hui. Elle nous permet d'avancer, de vivre les choses sereinement et de continuer à travailler. À l'image, je le disais tout à l'heure en conf, hein, sur la défense qu'on aligne aujourd'hui, il n'y en a aucun qui a plus de 22 ans. Je trouve que c'est un bon signe.
Oui, c'est un bon signe, effectivement. C'est positif pour les Guingampais qui se sont replacés dans ce championnat de Ligue 2 au milieu du tableau. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a très peu d'écart hein, entre tout le monde dans ce championnat, parce que Guingamp, à la 11e place, est à 3 points du 3e, le Paris FC, qui compte, c'est vrai, un match en moins à Ajaccio. Mais voilà, si jamais...
Cette semaine, je crois, mercredi, non ?
Demain même, je crois.
Demain.
À Ajaccio. Oui, c'est ça, demain à 19h. Ouais, sachant que voilà, il y a Sochaux aussi qui arrive bientôt dans 8 jours pour Guingamp. Sochaux qui est devant depuis le début, ça peut être un bon test aussi.
La Seigneur, hein, le prochain match, déplacement à Niort, je crois. Déplacement à Niort, c'est ça.
Exactement. Et ce sera Gaëtan qui vous fera vivre cette rencontre sur Radio Bonheur. Donc voilà, ça fait du bien d'être un peu plus léger autour de Guingamp dans le magazine. On est un peu plus léger aussi avec les filles, Gaëtan, oui, qui ont remporté leur premier match de la saison contre Montpellier vendredi.
Et oui, une défaite sur le premier match, un match nul sur le deuxième et une victoire sur le troisième contre Montpellier 2-1. But de Margot Lemuel sur pénalty à la 21e minute. L'égalisation Montpellier-Rennes à la 70e de Nicoli et Morgan Nicoli, et puis le but de la victoire, Emy Jezekel à la 78e sur une passe de Lemuel, buteur et donc passeuse, buteuse et passeuse dans ce match. Guingamp qui compte désormais 4 points, qui est donc à 3 points d'avance sur la zone rouge. En 3 matchs, c'est plutôt pas mal, surtout que derrière, il va falloir enchaîner les prestations face à Lyon et face au Paris Saint-Germain, les deux leaders de ce championnat avec 9 points, tout comme le Paris FC, vainqueur également de ses 3 premiers matchs de la saison en avant, qui ne jouera pas ce week-end parce que on sait que dans le championnat de D1 il n'y a pas beaucoup d'équipes, hein, il y a seulement 12 clubs, donc il n'y a que 22 journées par saison, ce qui fait qu'il y a des trous assez régulièrement dans le calendrier. Donc pas de match le week-end prochain, mais déplacement à Lyon la semaine suivante avant la réception du PSG. Donc
deux gros morceaux,
et c'est pour ça que c'est vraiment une bonne nouvelle d'avoir pris les points contre Montpellier ce week-end pour les joueuses de Frédéric Biancalani. Et on termine ce magazine avec les résultats, parce qu'on les a pas donnés tout à l'heure, de National 3. On a eu Lannion, bien sûr, qui s'est imposé 2-1 contre Locminé avec Rémi Le Bourdoulous. Et pour le reste, des résultats. Victoire aussi de Milizac contre la TRN 2-0. Henri et Kerjan sont les buteurs. De partout entre Brest B et Plouzané. L'ouverture du score de Brest par Lebras à la 45e plus 1 dans le temps additionnel. Kouyaté et Magalèche ont donné l'avantage à Plouzané en deuxième mi-temps, avant que dans le temps additionnel de la deuxième période, cette fois, eh bien le Stade Brestois n'égalise par Escartin. Victoire également de Rennes B face à Guy Primessac, 4-0. 0-0 entre Saint-Brieuc B et la GSI Pontivy. Un but partout entre le Stade Pontivien et Dinan Léon. Dinan qui avait marqué par Dupas à la 30e, et Guéhenneux un quart d'heure plus tard qui égalise pour les Morbihanais. Et puis enfin Fougères qui s'impose 3-0 sur la pelouse de Tréguin. Au classement, Rennes B, Brest B et Fougères sont en tête avec 7 points. La GSI Pontivy suit avec 5 points, toujours invaincu. La GSI de Stéphane Le Garec. On retrouve Saint-Brieuc B en 6e position. Lannion 8e avec 3 points, comme Dinan Léon, Tréguin et Locminé. Et puis referme la marche Plouzané, Stade Pontivien, 2 points. Et Guy Prémessac avec un petit point dans ce classement.
Il y aura un match de Ligue 2 ce soir à 20h45. On l'a dit, Le Havre recevra Toulouse dans le haut du classement, enfin surtout pour Toulouse. Je crois qu'il y avait aussi un match Gaëtan de National qui se
Exactement.
Jouait ce soir en match décalé.
Et à 3 minutes de la fin, Sedan mène 2-0 sur la pelouse du Mans. But de Bekeshi et Missiatou. Et conséquence au classement, eh bien, si le score en reste là, le Mans serait 7e avec 10 points, Sedan 4e avec 11 points, et passerait donc juste devant l'US Concarneau qui compte également 11 points en compte.
Merci messieurs, prochain rendez-vous avec les déchaînés du football demain matin à 8h35 avec la rubrique pour Lorient, pour Brest et pour Guingamp. Bonne soirée.
Bonsoir.
Bonsoir,
bonsoir messieurs.